Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Marion.
Salut.
Merci de prendre du temps aujourd'hui pour parler PMM, en scale-up. Donc ça va être la thématique de notre échange. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter.
Carrément. Marion, ravue. Je suis Head of Product Marketing chez YouSign. Ça fait presque 4 ans maintenant que je suis chez YouSign. Je suis arrivée, on était une cinquantaine et aujourd'hui on est 200. J'ai eu l'opportunité d'accompagner aussi la boîte dans sa croissance, donc c'était assez cool, croissance des équipes, mais aussi croissance forcément du revenu, de l'ARR et des différentes problématiques qu'on a été amené à gérer aussi bien dans l'équipe product marketing que chez YouSign, avec l'international, avec des problématiques PLG, avec tout un tas de sujets hyper intéressants à gérer. Monter une équipe aussi, puisque je suis arrivée en first PMM et aujourd'hui on est 5 dans l'équipe, avec pareil un scope qui a évolué au fur et à mesure du temps, et ça je pense qu'on va en parler. Et avec un background marketing, j'ai fait travailler une bonne douzaine d'années en marketing dans différents secteurs et dans différentes taille de boîte, que ce soit des grands groupes ou des PME ou des startups et aujourd'hui chez YouSign. Avec depuis quelques années une spécialisation côté product marketing assez cool et sur un métier qui évolue encore bien, donc c'est top.
Top. On va revenir un peu sur tout ça, sur cette croissance aussi hyper, hyper rapide de YouSign et du coup ce que ça implique pour toi, ce qui s'est impliqué sur ton rôle et du coup la croissance de ton équipe aussi. Donc vous êtes 5 aujourd'hui, toi inclus ou...
Oui, inclus, exactement. Ouais,
et, ouais. Et donc c'est que des profils PMM dans ton équipe ou...
C'est que des profils PMM exactement. En fait, aujourd'hui tel qu'elle est, on est en transition actuellement d'organisation d'équipe. Au tout début, donc j'étais toute seule. Ensuite, j'ai recruté une personne et donc j'étais en même temps manager, mais je gardais un gros rôle opérationnel en tant que PMM sur une partie des produits. Il y a eu un changement important en 2022 où initialement on était côté marketing et on est passé côté produit. Ça a changé pas mal de choses et on a accéléré à ce moment-là la croissance de l'équipe. Donc j'ai recruté d'autres product marketing managers et on est passé d'une organisation en miroir de l'équipe produit, donc organisée avec des PMM qui étaient référentes sur des scopes fonctionnels, à une organisation beaucoup plus impact-driven, où du coup, en fait, on a différentes expertises qui sont identifiées, donc sur le pricing, sur la GTM, sur l'adoption. Et où du coup, il y avait une PMM senior pour chacun des grands sujets. Et on a aussi une autre PMM qui vient en support des différents sujets. Et puis une personne en stage qui elle, gère plus tout ce qui est content, notamment autour des communications de lancement, notamment autour du Help Center, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de réorganiser l'équipe parce qu'en fait, en 4 ans, forcément, il y a des nouvelles problématiques, parce que l'équipe grandit, parce qu'il y a un pôle marketing qui structure aussi chez nous. Et en fait, on est en train de passer à des product marketing managers full stack.
Ok.
Où du coup, l'objectif, c'est ces différentes expertises, qu'elles soient maîtrisées par l'ensemble des product marketing managers qui sont dans l'équipe, qu'elle soit aussi capable de travailler sur l'intégralité des produits qui sont chez YouSign. En revanche, et ce qui est un peu particulier, donc c'est pas forcément représentatif de toutes les équipes, mais en même temps, chaque équipe product marketing a ses spécificités, c'est quelque chose qui est beaucoup moins charté, on va dire, que d'autres équipes, y compris dans le produit. En fait, on a sorti toute la partie delivery, pure delivery. Alors, on en garde une partie et on pourra en parler, notamment sur les sujets pricing, etc., mais sur tout ce qui est go-to-market et une partie de l'adoption. toute la delivery, en fait, toute la distribution, toute la partie distribution sur des channels sales et marketing est gérée à 100% par les équipes sales et marketing.
Ok. Donc là, c'est ce sur quoi vous êtes en train, du coup, enfin, c'est la situation actuelle. Donc je te propose maintenant qu'on va, on va faire petit à petit un regard en arrière et puis voir comment c'est passé de First PMM à l'organisation que tu viens de présenter. Donc quand tu es arrivé, que vous étiez 50, aujourd'hui, tu dis que vous êtes grosso modo 200.
Ouais.
Quelles ont été tes premières missions? Comment toi, tu as pris ton rôle, comment ça a commencé en fait le jour 1 quand t'es arrivé chez Usain?
En fait, globalement, c'est simple, c'était d'abord un audit en fait, parce qu'en fait comprendre l'organisation, bon, ça, quelle que soit la personne quand elle arrive dans une entreprise, mais en fait comprendre la perception du produit en interne et à l'externe. Et comment est-ce qu'il était présenté? Donc, comment est-ce que les sales présentaient leurs produits? Comment est-ce que les équipes marketing les présentaient au travers des campagnes? Quel était le key differentiator selon les différentes équipes? Faire la même à l'externe avec des interviews utilisateurs, des interviews prospects, des interviews clients, du ghost calling, etc. Enfin, voilà. Donc, un peu un récapitulatif pour avoir une vision globale de où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de positionnement produit, en termes de communication produit. Et puis, définir les bases. Donc, effectivement, formaliser un certain nombre de choses. Donc, formaliser notre positionnement produit, formaliser le positionnement et les différentes informations autour de chacune des features, chacun des produits qu'on propose, mettre en place un certain nombre de process, c'est-à-dire, en fait, demain, il y a une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit, pas forcément qui sort, mais qui commence à être conçu, à quel moment on arrive, comment est-ce qu'on travaille avec l'équipe produit, avec les différentes équipes, etc. Comment est-ce qu'on gère toute la communication autour de ces nouvelles fonctionnalités? Comment est-ce que on accompagne aussi l'équipe produit dans l'accompagnement utilisateur sur tout le funnel ARR, donc à partir du moment où ils arrivent sur le site jusqu'à ce qu'ils sign up, que ce soit pour notre application de signature ou notre API de signature en ligne, pour ensuite les encourager à utiliser l'application, etc. Donc c'était vraiment se dire, ok, définir le rôle de product marketing, parce que effectivement il peut être différent d'une organisation à une autre. Donc qu'est-ce que ça voulait dire chez Usain? Quel était l'impact qu'on souhaitait avoir? Et du coup, ensuite, concrètement, comment est-ce que ça se traduit en process, en framework, en rituel, etc. Donc c'était vraiment auditer pour voir comment ça fonctionne et quel serait le scope de product marketing à cet instant-là le plus pertinent. Et puis ensuite, voir comment on le met en place avec aussi toutes les autres équipes.
Donc là-dessus, j'imagine, quand tu as fait ce premier audit, tu as vu un peu toutes les leviers d'amélioration qu'il y avait à droite à gauche, de cohérence, les problématiques qu'on peut avoir quand tu grossis comme ça un peu de partout. Et assez rapidement, quelles ont été à cette époque-là les plus grosses difficultés que tu as eues? Et aujourd'hui, avec le recul, tu vois, de voir comment tu as pu les surmonter, parce que autant j'imagine l'ensemble des opportunités devait être assez important, et comment derrière tu vas prioriser, et aussi comment tu vas embarquer tout le reste de l'équipe derrière le fait que, ok, maintenant faut plus écrire les choses de cette manière, tout ce qui va en lien derrière avec la partie PMM.
En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que, alors, c'était...
Tu vas pas me dire que c'était facile. Hein.
Non. Mais honnêtement, oui et non, parce qu'en fait, et c'était aussi quand même un des prérequis quand j'ai postulé à des postes de product marketing manager. En fait, il y avait une vraie volonté d'avoir du product marketing, mais une volonté qui était partagée par toutes les équipes. Que ce soit top management jusqu'aux différents contributeurs. Donc en fait, j'ai pas eu besoin d'évangéliser ou de me battre pour prouver l'intérêt du product marketing chez Usain. Et ça change énormément la donne. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la chance, parce que du coup, je suis arrivée, on a dit ok, qu'est-ce que tu vas faire chez Usain, mais plutôt en mode cool, qu'est-ce que tu vas nous apporter. Donc très facile de mettre en place des rituels avec les product managers. Très facile de mettre en place des rituels avec les sales, avec l'équipe marketing dans laquelle on était à l'époque, du coup. Donc, en fait, ça n'a pas été si difficile que ça. En fait, c'est plus que c'est long. et que effectivement au fur et à mesure on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, et que j'avoue j'ai un amour des process et des notes Notion qui fait que du coup c'était très très cool de construire tout ça justement, et de le construire avec une autonomie de ok, ta carte blanche, comment tu veux mettre en place le product marketing chez nous concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc je dirais plus que la grosse difficulté ça a été de trouver le juste milieu de où est-ce qu'on est vraiment nécessaire, et après de s'assurer qu'on arrive suffisamment en amont des roadmaps et de la conception des produits, parce qu'on n'était pas dans l'équipe produit, donc c'est forcément un peu plus compliqué quand on est dans l'équipe marketing, même si on a une collaboration, une très bonne relation qui s'est installée. Mais en fait c'est vraiment de pas être dans cette relation de ok, on ship une feature, tiens, vas-y, tu peux la vendre. Mais vraiment, on commence à réfléchir sur une feature, bah, viens avec nous et dis-nous, et réfléchissons tous ensemble comment on la positionne, comment on la vend, et du coup, d'avoir ce flow de développement en parallèle du flow de go-to-market, quoi. Et de vraiment s'assurer de cette synchronisation et que PMM ait toutes les infos suffisamment tôt dont on a besoin pour construire le positionnement et la communication autour d'une feature.
Très, très clair. Quand tu disais aussi, donc ça prend aussi du temps de voir les résultats derrière, donc bien, bien noter le point, en fait, le sujet d'évangélisation, il n'y en avait pas, donc ça c'est clair que c'est cool de pouvoir se dire, bah, on parle plus ou moins tous la même langue, et surtout, vous attendez que je vienne vous apporter un peu cette casquette-là, donc il n'y a plus qu'à, quoi, j'ai envie de dire. Mm. En revanche, derrière, comme tu disais, il y a aussi un temps nécessaire, une fois que c'est mis en place, pour que ça commence à prendre et donner les résultats attendus. C'est quoi un peu les échelles de temps que tu as pu voir, du coup, entre les premières mises en place après cette phase d'audit d'action PMM et des premiers résultats concrets, où tu vois des premiers moments où vous commenciez à vous dire, même au niveau équipe produit global, ah ouais, là on commence à vraiment voir l'intérêt de tout le travail qu'on a fait en amont.
En fait, ça dépend des sujets, mais le truc c'est que donc moi je suis arrivée en août et de mémoire c'était en octobre on lançait la version. Oui, même en septembre-octobre, on lançait la version bêta de notre produit actuel. Et donc, du coup, il fallait mettre en place un plan de recrutement de bêta-testeurs, animation de la communauté, et ensuite, derrière, récolter du feedback avec le PM qui était sur ce sujet. Donc, en fait, très vite, il y a eu un projet, en parallèle de toute cette phase d'analyse et de mise en place des process, il y a eu très vite un projet concret de « Ok, ben, à quoi va servir le product marketing là-dedans » Et donc, mon rôle, c'était effectivement, sur cette phase de bêta, d'aller recruter les bêta-testeurs, d'animer la communauté, de faciliter la récolte de feedback avec le produit. Ensuite, on analysait, on voyait comment ça pouvait impacter le positionnement de certaines features, le scope fonctionnel de cette application, etc. Donc, du coup, on a vu l'impact assez rapidement. C'était un impact quali, forcément, sur la bêta. Alors, il y a du quanti sur le nombre de bêta-testeurs recrutés, mais on était surtout sur du quali. Et ensuite, assez rapidement, on a lancé cette nouvelle version, donc grand public. Donc, pareil, en fait, on a eu assez rapidement, quand je suis arrivée, il y a eu des gros projets qui ont fait que, du coup, forcément, on a vu rapidement l'impact business de ce que ça apportait, puisque les lancements étaient gérés quasi exclusivement côté product marketing. Parce qu'à l'époque, on était encore, et c'est normal, surtout au début, on était un peu positionné sur le discovery, mais on était surtout très delivery. Donc effectivement, ça s'est vu assez rapidement. Après, sur les process, en fait, c'est pareil, ça se voit assez rapidement parce que c'est une mise en place progressive. Donc en fait, quand on voit que assez rapidement, les sales prennent le réflexe de remonter des feedbacks, assez rapidement, on peut facilement mettre en place des sessions de workshop avec eux, pareil avec les équipes produits où on est facilement sollicité. En fait, je trouve que comme j'ai mis en place des choses assez concrètes, en fait, c'était suffisamment simple de pouvoir... On avait des vrais repères. Je donne un exemple, par exemple. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai repris de Intercom et pas mal de boîtes qui le font. On utilise une scoring grid pour noter les features et les produits qui sortent, à partir duquel on va définir qui évalue le potentiel business impact de la feature, en fonction duquel on va définir les efforts non seulement sur GTM, mais aussi les efforts sur la conception. Et donc, du coup, au début, je l'avais mis en place côté PMM en disant, OK, ça va scaler, ça va permettre de scaler les go-to-market stratégies et en même temps, ça permet de s'assurer qu'on met le bon effort au bon endroit. Et en fait, ensuite, on l'a déployé et on est encore en train de le déployer au niveau du produit. Et donc, en fait, on avait ce vrai repère de, OK, on commence à travailler sur un produit, on sait qu'il y a le chaos avec le product manager, le product marketing manager, le product designer. Ils vont remplir le Lean Canva pour définir les différentes hypothèses à dérisquer. Ils vont remplir la scoring grid pour du coup définir l'effort qui va être mis dans ce produit ou cette feature. Et donc, comme il y avait un peu ces points de repère, et ensuite, quand on a fini la partie research, il y a ce point ensemble pour dire OK, maintenant comment, qu'est-ce qu'on va faire en termes de distribution. Alors, au fur et à mesure, les process se sont un peu complexifiés parce que forcément, il y avait de plus en plus d'équipes impliquées. Au début, on était 2 PM, 1 PMM, et puis. Mais du coup, voilà, en fait, le fait d'avoir mis des rituels, des frameworks et des outils qui sont communs et qui sont hyper concrets, ben, en fait, on arrive à se retrouver dans le concrètement, qu'est-ce qu'on fait et ensuite derrière, qu'est-ce qu'on apporte, quoi.
Très, très clair, du coup. J'aimerais bien maintenant qu'on continue sur, selon toi, après, quel a été le prochain gap, la prochaine point d'étape, en fait, qui a été peut-être un peu plus challenging, du coup. Enfin, là, c'était challenging, mais comme tu dis, ça s'est passé plus ou moins de manière smooth sur cette première phase. C'était quoi, ensuite, la prochaine étape
je pense que ça a été le switch marketing-produit.
Donc, de déplacer la fonction du marketing vers le produit.
Parce que ça, en fait, c'est arrivé au bon moment. Donc, en fait, Christopher Parlois, qui est notre CPO, il est arrivé en 2022. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, nous, on est à un stade de maturité suffisant pour justement passer de marketing à produit. Et ce que ça a fait, c'est qu'en fait, on est vraiment remonté sur le discovery à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était impliqué dans les discussions de conception, etc. Mais les phases de research étaient quand même assez silotées. On n'avait pas forcément toujours les informations, on n'était pas forcément toujours dans la boucle de tout. Et il y avait un certain nombre d'aspects qu'on ne gérait pas forcément, notamment le positionnement, beaucoup plus de research, aller plus loin sur l'analyse de la compétition, l'analyse de marché, etc. Donc en fait, on a vraiment fait ce switch au même moment. J'ai recruté trois personnes supplémentaires dans l'équipe. Donc en fait, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de changements. Et ça a été un challenge. Ça a été un challenge parce que déjà, moi je suis marketing à la base. Product marketing, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas avec des conférences, en lisant, etc. Il n'y a pas de cursus. Et donc en fait, le background produit, je l'ai moins que des product managers. Donc d'arriver dans l'équipe produit, ça voulait dire aussi intégrer beaucoup plus une culture produit, être encore plus familière que je l'étais déjà avec tous les rituels, toutes les méthodes. Parce qu'en fait, du coup, on a intégré des méthodologies produits au product marketing, ce qui est le cas dans beaucoup d'équipes, on n'a pas révolutionné. Mais du coup, pour moi, pour les personnes que j'ai recrutées, qui avaient aussi un background marketing, c'est dire, OK, c'est quoi la discovery ?
C'était quoi pour toi, du coup, si tu devais retenir un à trois max items de ce qui était le plus nouveau pour toi de la culture produit que tu n'avais pas, du coup, avec le background plus marketing en...
Le process de discovery.
OK.
Ouais, le process de discovery avec le Lean Canva, avec cette notion des différents types de risques, product, user, distribution et profitabilité. En fait, c'est les mêmes informations, mais organisé de manière complètement différente. Donc, ouais, ça, c'était un challenge parce qu'en fait, user risk, product risk, oui, forcément, nous, on va travailler sur le positionnement, on va travailler sur le pricing, etc. Mais ouais, d'être beaucoup plus sur des modèles de framework, de process, etc., produits, dont nous, on était beaucoup plus éloignés. Donc, se familiariser avec ça. Et il y a aussi un autre truc à ce moment-là, du coup, auquel je viens de penser, c'est qu'à ce moment, donc, on a vraiment changé de scope, on a moins pris côté delivery. Donc, tout ce qui était communication, marketing, etc., on gérait beaucoup moins, on a gardé une partie, notamment tout ce qui était customer communications, mais tout le reste, c'était principalement géré dans l'équipe marketing. Et en revanche, un gros pan, et qui a qui a conduit fin d'année 2022 à cette réorganisation plus en expertise qu'en miroir de squad, c'est qu'en fait on a intégré le produit, le pricing, à notre expertise, et ça c'est pareil, c'est des choses que j'avais jamais fait. moi j'ai un background market, littéraire, clairement ça a été aussi un énorme changement, mais hyper cool. Aujourd'hui c'est, je pense, les sujets pricing, c'est mes sujets préférés. Je suis plus trop dans l'opérationnel directement, mais je prends quand même parfois quelques sujets et pricing ça en fait partie. Et ça, ouais, ça c'était. Et puis, pricing, ça a un impact. Faut pas se gourer, quoi.
Ouais, ça a un impact assez fort, effectivement, sur la boîte, surtout dans ce type de business. Du coup, est-ce que t'as un exemple, tu vois, de choses que tu ferais différemment, que t'as beaucoup appris, en tout cas, quand tu dis qu'aujourd'hui, du coup, c'est un sujet maintenant qui te plaît, ouais. Voilà, que tu kiffes bien, qu'est-ce que.
Ben, déjà, le fait qu'il y ait cet impact, je trouve ça hyper cool. Parce qu'il y a un vrai impact direct. En fait, justement, plus. C'est assez paradoxal, parce qu'en fait, plus on monte sur la discovery et moins on est dans le delivery, du coup, on a l'impression parfois de se dire « Ok, ben, je suis moins en contact avec l'impact direct, puisque moi, en fait, je vais nourrir les équipes qui vont venir générer du lead et générer de l'acquisition. Nous, on va leur fournir toutes les informations autour du produit qui vont leur permettre de le faire, en tout cas, en partie. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'on reste quand même très en lien avec les customers, avec les utilisateurs, etc. Donc on a quand même un impact, mais qui est différent. Et du coup, le pricing, ça permet de garder, je trouve, cet impact direct. Parce qu'en fait, c'est ce qui va en partie définir l'impact revenu qu'on va avoir, quoi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça hyper cool. En fait, en vrai, déjà, on a itéré au fur et à mesure. En fait, j'ai pas créé le process, là, from scratch, en me disant « il y a pricing ». Non, en vrai, ça s'est passé parce qu'on a lancé, un niveau de signature, parce que du coup, sur la signature électronique, il y a différents niveaux. On peut rajouter de la sécurité en fonction de l'importance des documents qu'on veut faire signer, ce qui permet de garantir l'identité du signataire qui signe les documents. Et donc, on lançait ce qu'on appelle le niveau avancé, qui est le niveau intermédiaire, sur lequel on vérifie la pièce d'identité du signataire, en plus de mettre à disposition le document et de sécuriser la signature. Et donc, c'était le premier sujet pricing qu'on avait. Donc, en fait, il a fallu commencer quelque part. Et au début, on a tâtonné un peu la lecture, discussion avec d'autres PMM qui l'avaient déjà fait. Et on commence à... avoir un espèce de cadre, et en fait on partit de cette expérience là on a itéré, et en fait à chaque pricing, en vrai, on itère parce qu'il y a beaucoup de spécificités, il y a beaucoup de modèles différents qui existent. Et là, par exemple, on est encore en train de revamp ce process pour qu'il soit le plus clair possible pour toutes les équipes, parce qu'en fait c'est le process côté product marketing qui implique le plus d'équipes. Il y a quasiment toutes les équipes QSign qui travaillent sur le process à un moment donné, que ce soit dans la disco, dans le delivery, parce qu'en fait, forcément, il y a besoin de la finance, forcément, il y a besoin du légal pour s'assurer que toutes les conditions sont OK, forcément, il y a besoin des sales pour en amont récolter les feedbacks et après tester au fur et à mesure, pareil pour les customers. Vraiment, tout le monde est sollicité. Les ops, parce que bien évidemment, il y a énormément de choses à implémenter. Je pense que la principale difficulté, ce serait ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on s'assure qu'on implique les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'il y en a tellement et il y a... Enfin, c'est quand même c'est le process le plus complexe en vrai qu'on gère.
Est-ce que tu as des dépendances sur l'ensemble des fonctions de la boîte, quoi? Donc,
Exactement. Et puis en plus, il y a en fonction de si on est sur un produit sales assisted, donc vendu uniquement par les sales, ou self-serve, vendu en autonomie sur le produit. Là, c'est des problématiques différentes. On a fait passer des produits de sales assisted à self-serve. Donc, il fallait gérer effectivement comment ça se traduit en termes de prix, mais aussi en termes de flow de souscription. Parce que du coup, forcément, c'est pas du tout pareil. Et ouais, ça, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment, je pense, le sujet que je trouve le plus cool. Après, bien sûr, j'aime bien tous les sujets product marketing, hein, mais yes. Ouais, pricing.
Très, très clair, mais j'imagine bien ouais, la complexité là. Enfin, même on peut se dire, ouais, mais ils sont juste 200. Bon, des gens, ça fait déjà beaucoup, mais par rapport. Mais on comprend mieux aussi, tu vois, la complexité dans des boîtes qui sont aussi assez grosses, qui des fois mettent en place plein de rituels, etc., justement pour essayer d'aligner, enfin, pour aligner les équipes. Parce qu'il y a un moment où tu es obligé d'avoir tous les inputs différents et tu peux pas t'en affranchir et en même temps. Tu veux pas tomber dans l'overprocess, etc., et garder cette flexibilité, ouais. Cette agilité que tu as quand tu es une startup, donc une scale-up. Donc, et j'imagine que ça te fait kiffer aussi parce que c'est compliqué, du coup. Donc, y a ouais. aussi...
oui, voilà, j'aime beaucoup les process et NotNotion, hein, je l'ai dit, donc c'est un peu une passion pour moi. Non, mais effectivement, en vrai, bah, du coup, ce process pricing qu'on est en train de revoir, et on est en train de revoir aussi pas mal de process, justement, de trouver ce juste milieu entre j'en dis suffisamment pour qu'il y ait une nouvelle personne qui soit amenée à gérer ce sujet et qu'on s'assure que tous les PMM dans l'équipe aient le même niveau de maîtrise du sujet et en même temps pas over-engineer le truc. C'est clairement un sujet, mais en fait, là-dessus, j'apprends vachement de l'équipe produit. Je trouve que l'équipe produit, elle est très mature là-dessus, les product leaders. Que ce soit côté product design ou product management. Et du coup, en fait, comme on est très proche, les product leaders, en fait, donc les différents managers de l'équipe produit, on se réunit toutes les semaines avec le CPO, on est très régulièrement, on échange en contact, etc. Et donc là-dessus, j'avoue que, comme justement, en fait, il y a une... Dans la culture produit, il y a vraiment cette culture de... C'est pas du lead management, mais les... Je sais pas comment dire. Mais c'est assez cadré, assez processé, mais ça l'est jamais trop non plus. En tout cas, c'est le cas chez Usain. Et du coup, c'est hyper inspirant parce que, ouais, quand on est un peu tenté de partir, ben, on sollicite vachement le reste de l'équipe produit pour avoir des inputs. Et comme ça, ok, ben, il nous aide vachement à calibrer là-dessus. Et puis, enfin, après, en vrai, on teste aussi, quoi. Enfin, ce process pricing, il a 2 ans et là, on est encore en train de faire un revamp, donc ça prouve bien que ça bouge aussi tout le temps et c'est nécessaire, quoi.
Ouais, l'aspect itératif, et du coup, ça m'amène sur l'orga actuel que vous avez, ouais. Côté PM, donc que tu partageais au début, donc sur laquelle vous êtes encore en train d'itérer, comme tu le disais, mais globalement, avoir des PM qui soient généralistes, qui puissent toucher un peu à tout, c'est quoi un peu les challenges, enfin, les réflexions que vous avez en cours là-dessus, quoi.
En fait, il y a un double challenge parce que elles sont pas référentes sur des scopes fonctionnels. Donc en fait, elles doivent pouvoir travailler comme n'importe qui dans l'équipe produit, doivent pouvoir travailler sur n'importe quel produit. Donc en fait, n'importe quel produit, ça veut dire qu'il faut maîtriser. Il n'est pas non plus gigantesque, mais la signature électronique, c'est plus compliqué que ce que ça peut paraître. Il y a quand même un certain nombre de produits à maîtriser, des problématiques, des pricing, des positionnements, etc. Des personas. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Et honnêtement, parfois, ça demande un temps de ramp-up qui est quand même à prendre en compte parce que c'est du temps qu'on prend sur une initiative, sur un projet. D'une PMM qui n'a pas encore travaillé ou depuis longtemps sur tel ou tel produit, donc il faut ramp up. Donc c'est un investissement quelque part quand même. Après, il y a des avantages aussi parce que du coup, il y a une flexibilité totale dans l'équipe et on n'a pas de goulot d'étranglement sur des produits. Mais il y a ça. Et ça amène aussi une difficulté supplémentaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de référent. Les PM, les EM, ils sont dans des squads, donc ils sont référents sur des sujets, même si l'objectif c'est quand même de pouvoir être amené à travailler sur d'autres sujets. Nous, par exemple, donc on a lancé la signature électronique qualifiée, qui est le niveau le plus élevé de signature en ligne, et en fait, on a eu quelques retours de sales qui disaient le pricing est trop élevé. Tel client a eu, on a un process pour récolter les feedbacks et du coup elle nous disait ok, on a eu un retour client, le prix est trop élevé. Deuxième retour client, le prix est trop élevé par rapport à la concurrence qui price à tel prix, etc. Et donc là on se dit ok, c'est un sujet qui n'était pas prévu sur la roadmap, même si on fait du suivi. Mais donc là on se dit ok, on n'a pas de PMM référence sur la signature électronique qualifiée. N'importe quel PMM peut gérer un sujet pricing et peut gérer la QS. Du coup, qui le fait ? Et ça aussi, parfois, c'est un peu difficile parce que les PM, ils ne savent pas forcément à qui s'adresser. Parce que du coup, les PMM, alors l'avantage, c'est que celle qui a le plus de temps, quelle qu'elle soit, elle va pouvoir gérer le sujet. Mais donc, ouais, de ne pas avoir de personne identifiée, en vrai, c'est un challenge. Après, ça nous apporte une flexibilité qui est hyper agréable et confortable parce qu'on n'a pas de goulot d'étranglement sur les sujets, ou en tout cas beaucoup moins. Mais clairement...
Ouais, t'as le risque un peu comme quand tu... Enfin, moi j'aime bien cette analogie de quand tu joues au volley et que tout le monde regarde la balle et qu'elle tombe au milieu, en fait.
Parfois, ouais, ça peut arriver. Mais effectivement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a suffisamment de communication et de proximité entre les membres de l'équipe produit que du coup, ça remonte, on le gère. Nous, les product leaders, on est là aussi. Mais ouais, franchement, il y a certaines fois, on s'est dit, ok, ben... Il se passe quoi? Et en fait, il se passe rien pendant 2 semaines parce qu'en fait, la balle elle est au milieu. Et... Donc, ouais.
Après, il y a aussi l'élément de culture. Je pense que vous avez une culture aussi qui permet de pouvoir avoir en tout cas, essayer de mettre en place ce type de rôle, quoi. Un peu volant, du coup. Parce que derrière, vous savez que vous allez réussir. Quelqu'un va la prendre, quoi, la balle, plus ou moins.
Complètement. En fait, franchement, ça revient à ce que je disais, au fait que du coup, j'ai pas eu besoin d'évangéliser le product marketing chez YouSign. Il y a une forte culture produit, mais une forte culture produit, ça veut pas dire qu'il y a pas de culture sales et qu'on est complètement... aujourd'hui, il y a un vrai rôle de chaque équipe, mais il y a une culture produit qui fait que... Je saurais pas vraiment comment expliquer, mais... En fait, qui fait qu'il y a pas... qui fait qu'il n'y a pas de conflit entre sales et produits. Parce qu'il y a une légitimité à exister des deux équipes. Et je dis pas qu'il n'y a jamais de friction, hein, rien n'est parfait nulle part. Mais franchement, et qui fait qu'on travaille relativement facilement ensemble. Quand on a besoin d'aller collecter du feedback, quand on a besoin de faire de la research, quand on a besoin d'organiser des collègues, des clients. Enfin, en vrai, on galère pas à aller chercher des contacts, on galère pas à solliciter les sales, etc. Et du coup, parce que je pense qu'il y a un bon équilibre. Et du coup, ouais, cette culture produit, ça facilite forcément derrière la collaboration entre les PM, les PMM. Mais je pense que c'est une culture produit, mais c'est aussi une culture, la culture de YouSign.
Une culture d'entreprise.
Ouais, franchement, ouais.
Je pense que ça va donner aussi envie à des gens, je sais pas si vous recrutez ou pas en ce moment, mais de vous rejoindre.
Il y a des postes ouverts.
Donc ça, c'est cool. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la logique go-to-market, du coup. Donc, pour toi, ce que tu disais, c'est que pour toi, le rôle du PM remonte au niveau dans la stratégie. Donc, comment la stratégie go-to-market, du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui vous la voyez? Comment vous la mettez en place?
Carrément. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, dès la conception, on a vraiment ce trio product design, product management, product marketing. Et donc l'objectif, c'est méthodologie discovery, donc de définir en fonction des risques, des différents risques, donc produits, utilisateurs, distribution et profitabilité, de définir les différentes hypothèses. Celles sur lesquelles on est plus ou moins confiant, celles qu'il va falloir aller dérisquer ou pas. Est-ce qu'on a déjà une idée de la solution? Est-ce qu'on sait déjà qui sont les personnes, les users auxquels on s'adresse? Est-ce qu'on sait déjà comment est-ce qu'on va vendre cette fonctionnalité, etc. Et donc, du coup, de là, de définir un plan de discovery qui va venir dérisquer les aspects sur lesquels on est moins certain, et donc de les définir aussi, les affiner au fur et à mesure, les tester au fur et à mesure. Et donc ça, c'est pareil. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est relativement clair qui own quels aspects du discovery, puisque donc forcément la partie solution, elle va être beaucoup plus drivée par product design et product manager. La partie positionnement, ICP, persona, pricing, elles vont être drivées par le product marketing. Et ce qui est important aussi, à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a un peu, on va dire, il y a un petit peu deux types de discovery. C'est la même méthodo, mais il y a ceux où, en fait, nous, on arrive vraiment en amont, analyse de marché, parce qu'en fait, on n'a même pas encore forcément défini l'opportunité. Donc là, c'est de se dire, OK, potentiellement, on a envie d'aller adresser cette nouvelle audience. Donc là, on n'a même pas forcément de solution définie, etc. Donc il y a une grosse partie, il y a un vrai duo PM-PMM avec aussi bien sûr le product design pour aller analyser le marché, identifier quelles sont les opportunités. Et ensuite, effectivement, une fois que les opportunités sont définies, ben là, du coup, on va rentrer plus dans la solution. Ou alors, effectivement, on a déjà un peu une idée de la conception et on va avancer ensemble. Donc, où on se dit... Mais c'est vraiment en parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, au début, ce qu'on faisait... J'essaye d'être le plus organisé possible dans la réflexion.
C'est très top.
Mais en fait, au début, ce qui se passait vachement, c'est que on nous disait, OK, même si on était en amont, même s'il y a une grande collaboration, on était vachement en mode, OK, bah voilà le scope fonctionnel de la feature, comment on la positionne. Donc, on devait positionner quelque chose d'existant. Aujourd'hui, l'objectif et ce qu'on met en place, ça peut paraître assez trivial, mais c'est de dire, OK, comment on va se positionner? Et du coup, quelle va être la solution? À quoi va ressembler le produit? Quel va être le scope fonctionnel? Et en fait, vraiment... Mais de là découle forcément le product market fit et tous les éléments qui sont associés. Forcément, si on définit les critères de décision principaux, on sait mapper la concurrence, on peut définir les opportunités de positionnement, et de cette opportunité de positionnement va découler du coup la solution, le prix et la manière dont on va le diffuser.
Yes, donc le go-to-market, en fait, il est fait beaucoup plus au fil de l'eau et pas en mode « tiens, j'ai construit ça, va le vendre », quoi, comme tu disais.
Exactement. Non, c'est hyper en amont, et en fait l'objectif donc qu'on est en train de mettre en place, c'est que étant donné qu'on ne gère plus le delivery, alors on reste quand même en informé, etc., l'objectif c'est de se dire on va beaucoup plus loin sur cette analyse, justement on peut arriver beaucoup plus en amont, on peut aller beaucoup plus loin dans les analyses de positionnement, de marché, de concurrence, on peut aller beaucoup plus loin aussi sur les différents points qu'on va définir, donc le positionnement, les personas, les ICP, le pricing. Et après, en fait, l'objectif, alors je dis et après, mais bien évidemment, ces équipes-là, elles sont impliquées beaucoup, très en amont aussi, mais l'objectif, c'est de dire, OK, ben, on a défini tous ces éléments, donc comment est-ce que maintenant, on va distribuer ce produit ou cette feature sur les différents canaux qu'on a à distribution. Et donc là, ça se fait avec les sales si le produit est en sales assisted, et avec les équipes marketing qui vont dire, OK, on a différents pôles marketing au sein de l'équipe marketing, et donc ces pôles vont être en charge de distribuer le produit en fonction de toutes les informations qu'on leur apporte. Mais encore une fois, assez cool, on a une très bonne collaboration avec le marketing, on fait des points en amont chaque quarter pour anticiper les différents sujets qui vont arriver, etc. Donc on n'est pas du tout à l'aveugle, une fois que c'est lancé, on reste complètement informé dans la boucle. Donc voilà, et ça c'est assez nouveau parce qu'effectivement, on gère pas de delivery, et ça je sais que ça peut être c'est pas forcément le cas dans toutes les équipes, et on teste, et c'est cool aussi de tester des nouvelles organisations, et puis ça permet d'être vraiment encore plus solide et expert sur cette partie discovery, et ça je trouve ça hyper cool aussi, quoi.
Ouais clairement là-dessus. Bon, après je pense que c'est aussi un luxe entre guillemets à votre taille que vous pouvez vous permettre, que peut-être quand t'es beaucoup plus petit en fait faut tellement shooter de partout pour essayer déjà de trouver ton marché et asseoir ta position avant de pouvoir ensuite comme ça vraiment prendre beaucoup plus de temps en amont sur tes phases de discovery, enfin splitter aussi les rôles.
Sûr, ça s'est fait et c'est pour ça que ça s'est fait complètement progressivement, ça n'aurait eu aucun sens il y a 2 ans de faire ça.
Yes.
Donc c'est vrai qu'au début, et c'est pour ça on était côté market, on était très delivery, et franchement c'était aussi hyper cool, hein, c'était hyper intéressant, qu'ensuite il y a eu ce switch à produit et que du coup là on est remonté dans le discovery tout en ayant encore en grande partie tout ce qui est customer communication, etc., et qu'aujourd'hui on s'en détache complètement, mais ça s'est fait vraiment progressivement, et c'est évidemment lié à la maturité des équipes, la maturité du produit, et ça s'est aussi fait parce qu'on a consolidé l'équipe marketing, et qui fait qu'il y a un bon équilibre qui se crée comme ça, donc clairement ça dépend du contexte.
Top, et du coup je suis curieux maintenant, je te fais faire ce travail d'introspection sur ces 4 années et demie déjà passées au sein de YouSign. Si tu devais sortir l'apprentissage le plus important, tu vois, le truc, c'est pas nécessairement, tu vois, un échec, mais vraiment ce que tu pourrais te dire dans 10 ans, bah, dans cette boîte-là, franchement, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris là-bas, ou en tout cas que je ferai maintenant de cette manière parce que je l'ai vu fonctionner de telle manière, ou vraiment sur tout ce que tu viens de partager et la croissance que tu as vécue de l'intérieur, quoi. Comment tu...
Ouais, bah, en fait, ça peut paraître hyper bateau, mais enfin, la collaboration. Vraiment, la collaboration. Mais la collaboration, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, la collaboration avec les équipes produits, le fait, en fait, et donc ce qu'on est vraiment en train de consolider aujourd'hui, hein, c'est vraiment du work in progress, le fait d'avoir la même façon de fonctionner. Ça s'adapte pas forcément partout, hein, donc c'est vraiment ce que j'ai appris chez Usain, et ça fonctionnerait partout, je suis pas certaine. Mais par exemple, ce fameux process de discovery, on a tous la même, alors on a l'ambition d'avoir tous la même façon de rédiger une hypothèse, tous la même façon de se dire ok, on a différents risques, ces différents risques, on travaille tous sur les mêmes typologies de risques, on a ces hypothèses, enfin, en fait. C'est des process qui sont communs, mais c'est pas juste des process, et l'objectif n'est pas d'absolument encadrer les gens. C'est plus de se dire on a la même façon de penser. Et c'est hyper cool.
Ça, là-dessus, et du coup, c'est top que tu me partages ça comme key learning, tu vois, la collaboration, parce qu'effectivement, ça me permet de rebondir sur tout ce que tu partageais en termes de mise en place de process, d'outils, type Lean Canva et autres. Tu viens exactement de le dire, c'est que le but de ces outils-là, de ces process-là, c'est juste de s'assurer que tout le monde parle le même langage, ouais. et quand on dit quelque chose, on parle effectivement de la même chose, et du coup ça permet de fluidifier encore plus cette collaboration. Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire oui, bah en fait ils ont mis plein de process, etc., c'est, du coup il faut que je calque ça, mais non, en fait tout ça c'était en support sur derrière pour continuer à maintenir cette collaboration qu'il y avait depuis le début, et en grossissant pouvoir la maintenir au travers du coup de ces process qui permettent de s'assurer qu'elle est toujours là lorsqu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent rapidement, quoi.
Exactement. Ça permet de pouvoir scaler les équipes en toute confiance et d'être en toute... c'est pas confiance que je cherchais, mais en toute zénitude. C'est pas du tout le meilleur mot, mais... Et aussi, en fait, ça permet d'assurer le meilleur impact possible. Et ça permet d'assurer aussi que les informations qu'on fournit, qu'elles soient aux équipes engineering, qu'elles soient aux équipes marketing et sales, ce soient les bonnes informations dont ils ont besoin. Et d'avoir vraiment ce même niveau de qualité. Mais effectivement, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, c'est s'assurer, l'atout principal, c'est s'assurer qu'on parle le même langage. Mais c'est pas forcément uniquement dans l'équipe produit. Par exemple, avec l'équipe sales, on travaille énormément ensemble, notamment par exemple sur les phases de research. Où on les sollicite, donc soit on peut faire du ghost calling, mais on fait aussi des interviews en interne avec eux, etc. Et en fait, c'est des rituels qui sont... Alors il y avait déjà, encore une fois, une très bonne base, parce qu'il y a une culture de la bienveillance chez YouSign, et qui est vraie, qui existe, et qui du coup fait que ça favorise la collaboration. Mais en fait, très vite, tout le monde est rentré dans ces rituels, et du coup, la collaboration, c'est bien évidemment avec l'équipe produit, et c'est trop cool parce qu'on parle le même langage, et nous, venant d'un background marketing, on s'est adapté, et en vrai, je trouve ça trop cool parce que j'ai appris plein de... Enfin, voilà, je le dis honnêtement, j'étais pas du tout une expert produit, je le suis pas aujourd'hui. J'ai appris plein de trucs, et de combiner, en fait, ces connaissances marketing avec des nouvelles connaissances produits, c'est top, et c'est pour ça que je trouve ça hyper cool qu'on se nourrisse les uns des autres dans l'équipe produit, mais pas que. Équipe marketing, équipe sales, on est proches dans le sens où on a des rituels régulièrement en commun, on communique régulièrement ensemble, et donc et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de silo d'informations, parce que il y a une grosse culture du feedback aussi chez YouSign, donc il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'ego. Enfin, ça aussi, mine de rien, ça facilite. Donc, c'est pas qu'une histoire de process, c'est aussi une histoire de culture, de mentalité, et ouais, de culture et de mentalité aussi, quoi.
Très, très, très clair. Du coup, avant d'aller vers mes questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé, un sujet, un message en particulier à faire passer, ou tu penses qu'on a fait un bon tour?
En vrai, ce qui est assez cool, c'est que chacun peut... chaque product marketing manager, s'il est le first, ou chaque product marketing leader peut vraiment construire son équipe, réagir différemment face à des problématiques, etc. J'aime bien régulièrement échanger avec des product marketing managers Et on a certaines problématiques en commun, et ça c'est cool parce que ça rassure quand même un peu de dire qu'on n'est pas les seuls à galérer sur des trucs. Mais c'est hyper intéressant aussi parce qu'en fait on apprend à chaque fois des choses dès qu'on parle ensemble, parce qu'il y a plein de manières de faire du product marketing, et à chaque stade sont ses problématiques, ses challenges, ses achievements, et c'est ok en fait. Du coup ça force à pas se comparer en fait, parce qu'on a tous, on a des stades un peu communs, mais on a tous aussi des problématiques différentes, on a tous des maturités différentes. Et du coup, c'est assez cool. Il n'y a pas cette espèce de complexe ou, à l'inverse, d'ego. L'important, c'est d'avoir de l'impact, d'être capable de mesurer son impact, parce que, voilà, in fine, c'est ça l'objectif, de venir quand même supporter les objectifs business de la boîte. Mais sinon, en dehors de ça, non, en plus, se dire quels sont les... quels sont les sujets qui vont être utiles à la boîte qu'il faut que je prenne. Parce que moi, je parle du pricing, mais en fait, ça se trouve, dans des boîtes, ça n'a pas de sens que ce soit le product marketing, ou c'est beaucoup trop tôt dans le cycle produit, enfin, dans l'évolution du produit. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc, il y a un panel. Il y a vraiment un panel de choses qu'on peut faire en product marketing. Donc, le truc, c'est de se dire quels sont ceux, si je les prends aujourd'hui, qui auront de l'impact business pour mon entreprise. Et là, du coup, ça vaut le coup de les tacler et de trouver ce juste milieu, comme tu disais, entre process et culture, entre rituel et cadre, entre formel et informel. Et vraiment collaboration avec toutes les équipes. Et ça passe principalement par la culture et par les autres managers. Enfin, je veux dire, si bien évidemment, les autres managers, market, sales, engineer, n'étaient pas dans la même mentalité et prêts justement à ce qu'on travaille tous ensemble, parce qu'au final, on bosse quand même dans le même but, ça aurait pas aussi bien fonctionné.
Très, très clair. Et enfin, l'accent sur la collaboration, ça me plaît bien. Donc, sur mon podcast, je le dis, c'est dans la conclusion. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et ça passe clairement par... C'est vraiment quelque chose auquel je crois, quoi. Et c'est la collaboration. Et donc, Usain, vous êtes la preuve, hein, que ça fonctionne. Après, comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas de recette miracle. Mais du coup, voilà, ça passe par le travail cross-fonctionnel du coup, et utiliser tous les outils qui existent qui peuvent être pertinents ensuite pour le favoriser. Donc, pour aller vers mes deux questions de fin, donc la première, c'est: est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle tu es en général en désaccord avec tes pairs?
En vrai, il y en a une dans le product marketing. C'est ce que le product marketing est côté marketing ou produit. En fait, il y en a deux. Il y a celle-ci. Alors, j'avoue, quand même, je pense, même si j'ai été côté market et que c'était pertinent à ce moment-là, je pense que ça fait plus sens d'avoir le product marketing côté produit. Peut-être aussi parce que je suis biaisée par une vision beaucoup plus discovery que delivery. Donc en fait, je me dis, nous, on doit valoriser le produit. Et ensuite, on travaille avec les équipes qui sont en charge de la distribution. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre en charge soi-même une partie de la distribution. On peut gérer certains canaux. Mais... nous, notre objectif, c'est de prendre le produit, de mettre la valeur, de s'assurer qu'il y a une valeur, de comment est-ce qu'on la met en avant, et de s'assurer que nos utilisateurs, nos prospects, nos clients, ils expérimentent cette valeur. Donc du coup, j'aurais tendance à dire, plus on est proche du produit, plus facilement on peut comprendre et nous-mêmes expérimenter cette valeur. Donc voilà. C'est un peu ce que j'aurais tendance à dire.
Très, très clair. Là-dessus, bon, moi, j'ai pas spécialement de conviction parce que je suis pas PMM, moi, je suis PM, mais je sais que c'est le fameux sujet, effectivement, qui porte à débat dans la communauté des product marketeurs. Donc, intéressant d'avoir ce point de vue. Et donc, ma deuxième question et ma question de fin, c'est un peu les choses qui te nourrissent, toi, intellectuellement, même au-delà de ce que tu peux avoir comme littérature pro ou autre. Enfin, comment tu progresses, comment tu te nourris?
Principalement discuter avec d'autres PMM et en IRL, en fait, je trouve.
In real life.
Voilà, exactement.
T'as du langage de geek, c'est à force de travailler avec des geeks, du coup.
J'ai pris les codes. Non, mais en fait, parce que j'ai quand même... parfois, c'est plus facile quand même de faire des calls à distance, mais je fais souvent des déjeuners, régulièrement des déjeuners avec d'autres product marketing leaders de boîtes assez variées, assez différentes, avec ceux qui sont partants pour le faire. Et en fait, quand on se voit en vrai, franchement, c'est pas pareil. Et hyper cool parce que Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, déjà, ça rassure. Parce que franchement, on va pas se mentir, on galère tous sur des trucs. Enfin, on a tous des trucs qui marchent pas, on a tous des produits qui ont plus ou moins bien marché, on a tous des lancements qu'on aurait aimé mieux faire, des produits, des pricings sur lesquels on a été obligé de repasser. Enfin, il y a aucune mode dans laquelle tout fonctionne. Et du coup, mine de rien, ça rassure. Et après, je trouve que c'est comme ça qu'on prend pas mal de bonnes pratiques. Donc effectivement, vraiment sur comment est-ce que j'améliore je prends des bonnes pratiques sur le product marketing, je dirais que c'est principalement ça, ouais.
Top, très, très clair, l'échange, donc ça revient, collaboration, échange, trame de fond de la discussion. Non mais ça me plaît bien, et c'est un retour que j'ai eu plusieurs fois, c'est effectivement les échanges juste avec ses pairs, avec des personnes, pour aussi avoir à la fois déjà se rassurer aussi, pour se rendre compte que d'autres rencontrent aussi des problèmes parfois similaires, parfois différents, mais c'est pas si facile aussi, l'herbe n'est pas spécialement plus verte ailleurs. Et puis également des fois juste d'en parler, ça permet d'avoir juste un point de vue extérieur qui peut aussi débloquer des fois des situations, donc ça je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, merci pour ton partage, Marion.
Merci à toi,
et puis à bientôt.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.